Divergence FM, l'interview.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous allons encore une fois vous parler du colloque qui va avoir lieu très prochainement à Montpellier. C'est le mardi 19, hein, un colloque qui s'intitule « Territoire d'eau du global au local, savoir, gouverner, décider ». Donc, tout un programme, ça se passe à la salle Rabelais à Montpellier. Et nous sommes donc en contact par téléphone avec Madame Laville. Bonjour Madame Laville.
Bonjour.
Alors, vous allez participer à cette journée. Vous êtes vous-même fondatrice du comité 21 et présidente de l'IEA, l'Institut des études avancées. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que le comité 21 et qu'est-ce que c'est que l'Institut des études avancées?
Voilà. Alors, écoutez, ce sont deux structures qui ont des choses à voir ensemble et qui sont extraordinairement différentes. Le comité 21 a été créé après la conférence de Rio en 1992 faire en France ce qu'on appelle l'agenda 21, c'est-à-dire en fait l'agenda du 21e siècle complètement s'occuper des problèmes environnementaux que la conférence de Rio avait avec trois conventions, la convention climat, la convention biodiversité et la convention désertification, mis en exergue. Alors, l'agenda 21, c'était en fait un agenda qui devait faire travailler ensemble tous les acteurs, qu'on a souvent appelé acteurs 21, acteurs du 21e siècle, et le comité 21 a réuni les collectivités locales, qu'on appelle souvent maintenant les territoires, les entreprises, les ONG, les universités, tous les corps universitaires, et puis les citoyens. Nous avons créé un cinquième collège qui est le collège citoyen. Tous ces gens-là ont des programmes en commun. Évidemment, ces programmes ont beaucoup changé depuis 30 ans, vous le comprenez bien. Et ils ont été revivifiés par ce qui a succédé à l'agenda 21, c'est-à-dire le programme des ODD, les Objectifs de Développement Durable, qui ont été approuvés par l'ONU et par l'ensemble des pays membres de l'ONU en 2015. Donc voilà pour le comité 21. Le comité 21 aujourd'hui, alors moi je l'ai fondé, je l'ai présidé longtemps. Le président maintenant, moi je suis présidente fondatrice, donc le président est Philippe Dessertine, que vous voyez souvent dans les émissions de grand intérêt parce qu'il est professeur spécialiste, président en même temps de l'Institut de haute finance, c'est un économiste, très versé dans les problèmes de transition. Et nous avons des programmes phares, en particulier, c'est à ce titre, je pense que j'ai été invitée, un programme sur l'adaptation au changement climatique. Nous avons été les premiers à militer sur l'adaptation, avec en particulier un livre en commun avec le CNRS, qui est paru en 2019 et qui parlait justement des questions d'adaptation. Alors, par ailleurs, l'Institut d'études avancées, c'est un institut qui est à Paris, il y a des instituts d'études avancées à travers le monde, et c'est un institut qui accueille des étudiants, des enseignants ou des étudiants, ça dépend, mais surtout des gens de très haute valeur étrangers qui viennent un an en année sabbatique pour travailler leur thèse ou faire des travaux particuliers. Et par ailleurs, nous avons des cycles qui sont des cycles un peu de think tank. Et cette année, nous avons comme sujet principal la mesure et nous avons décliné beaucoup de sujets environnementaux puisque, comme vous savez, aujourd'hui, on mesure à peu près tout en environnement, c'est-à-dire l'état des sols, le carbone, bien entendu. On mesure également la biodiversité et on mesure évidemment les enjeux sur l'eau. Voilà, vous avez le panorama complet.
D'accord, oui, alors c'est très complet, aussi bien au niveau des acteurs qu'au niveau des objets sur lesquels vous travaillez. Alors, il y a juste deux petites notions qui m'interrogent dans ce que vous dites. Vous avez parlé à un moment tout à l'heure de développement durable. J'ai lu beaucoup de spécialistes qui disent « développement durable », c'est la traduction française, la mauvaise traduction française de l'anglais, qui parle en fait de développement soutenable. Est-ce que c'est une nuance qui vous parle ou pas ? Ou qui vous paraît surfaite.
C'est un débat qui dure depuis Rio, c'est-à-dire depuis 30 voilà. ans. Effectivement, c'est la traduction assez mauvaise de Sustainable Development. En même temps, on avait choisi, quand on était autour de la conférence de Rio durable, parce que soutenable en France, ce n'était pas non plus extrêmement clair. Et je crois que le développement durable s'est imposé, en fait, maintenant, dans le vocabulaire. Mmh. Moi, je suis plutôt pour mettre toute notre énergie dans les actions plutôt que la sémantique. Mmh. Regardez, aujourd'hui, on parle de transition, on parle beaucoup de transformation. Finalement, beaucoup de gens militent pour que tout ça soit enveloppé dans le concept de sobriété, sur lequel d'ailleurs le comité 21 a beaucoup travaillé. Enfin, vous savez, je crois que c'est le temps de l'action maintenant. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut économiser les ressources, reconnaître les limites planétaires, tout en assurant non pas le développement et non pas, et ça je suis moi-même contre la décroissance, mais en assurant en tout cas la prospérité. J'aime bien ce mot, qui est un mot d'ailleurs qui avait été fondé par un économiste anglais, Tim Jackson, parce que ça veut dire qu'on peut accéder, prospère, prospérité, la racine latine c'est bonheur, on peut aspirer à une certaine prospérité en respectant les limites de la Terre.
Voilà. D'où l'idée de soutenable que dit l'anglais, effectivement. Bon. Voilà. Cela dit, effectivement, c'est les actions qui comptent et pas la sémantique, hein. Surtout que ça, la sémantique sert de prétexte pour ne pas agir. Là, vous êtes sur une table ronde qui va parler de planification et aménagement du territoire. Alors, quelle planification possible, quels aménagements possibles sur ces questions liées à la raréfaction des ressources en eau?
Alors, d'abord, la planification, ça a été remis au goût du jour avec une demande sociale très importante par le gouvernement il y a 2 ans, avec un commissariat à la planification, SGPE, qui est placé auprès du Premier ministre. C'est quelque chose qui était attendu parce que on ne peut pas, comment dirais-je, parcourir toute la trajectoire des phases successives de diminution du carbone avec les différents calendriers qui sont, par exemple, le point de rencontre de 2030, puis 2050, qui sont quand même les grandes dates au niveau du climat, sans avoir un phasage. Et pour ça, d'ailleurs, le secrétariat à la planification a fait un très gros travail. Alors, par ailleurs, aujourd'hui, il y a une planification régionale et c'est pour ça que le comité 21, par exemple, a lancé dans plusieurs régions des GIEC régionaux et que le gouvernement a lancé avec les préfets et les présidents de région ce qu'on appelle les COP régionales qui doivent se dérouler en ce moment dans toutes les régions pour faire finalement des programmes, des planifications régionales. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'elles soient compatibles aussi avec ce qu'ont lancé souvent les présidents de région, avec leur SRADET, et le SRADET est une obligation pour les régions, c'est un schéma obligatoire, et d'autre part, très souvent, les régions ont lancé des stratégies diverses, dont des stratégies d'adaptation au changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau? Ben, ça a tout à voir avec l'eau, pour plusieurs raisons. D'abord, la raréfaction de l'eau va évidemment avec le climat, et plus le climat se réchauffe, moins la ressource eau est disponible. Deuxièmement, plus le climat se réchauffe, et vous le savez bien dans votre région, plus vous avez un risque d'élévation du niveau de la mer, et ça c'est le littoral, les problèmes de trait de côte, etc. C'est des problèmes extrêmement importants.
Oui, on voit dans la région à quel point c'est problématique, ne serait-ce que pour le tourisme avec les plages qui partent à la mer.
Exactement, les plages vont diminuer, les fondements de falaises, de rochers s'effritent, et d'autre part, vous avez un risque, alors, même en Méditerranée, hein, de très forts mouvements, de vagues, etc., qui peuvent attaquer le littoral. La planification, c'est effectivement avec les besoins de l'agriculture, parce que vous voyez bien que les besoins agricoles sont de plus en plus importants. Avec la crise agricole, on voit bien que c'est avec le problème des bassines, etc. C'est complètement dans les préoccupations des agriculteurs qui sont dans une situation extrêmement difficile parce que, étant donné le réchauffement climatique, toutes les plantes et tous les céréales, etc., qu'ils cultivent, ont besoin de beaucoup d'eau et la ressource eau se raréfie. Et donc, ce qu'on appelle le partage de l'eau, c'est-à-dire le partage de l'eau entre tous les usagers, exige absolument une planification. Et ça, il faut quand même bien dire que les agences de bassin doivent faire ce travail et sont complètement au cœur de ce travail, mais qu'aujourd'hui, le partage de l'eau est un des problèmes les plus cruciaux qu'on va avoir à résoudre dans les années à venir.
Mmh. Oui, une militante célèbre des questions d'eau parlait des guerres de l'eau, hein, Vandana Shiva, en disant qu'elles étaient déjà là. Quoi. C'est pas une projection dans le futur, c'est déjà une réalité contemporaine.
Bah, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là, par exemple, dans des pays comme le sud de la France, comme l'Espagne, on sait bien qu'elles sont là. Ne parlons pas de certains pays où vraiment la guerre de l'eau existe et beaucoup de conflits sont en fait liés à la raréfaction de l'eau. Hein. Au niveau géopolitique, aujourd'hui, il y a une déclinaison commune des guerres, comme vous dites, des conflits et de la raréfaction de l'eau. Mais par exemple, sur le territoire français, vous avez l'impression, évidemment, vous qui êtes dans le sud, que vous êtes particulièrement touché, mais tout le monde est touché aujourd'hui, tout le monde. Et tous les climatologues observent que le réchauffement touche la France peut-être de façon plus forte que les prévisions d'il y a 10 ans. Le mettait en lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est la mérite d'avoir des politiques tout à fait robustes, comme on dit, et des arbitrages politiques tout à fait forts.
Bien, on comprend mieux maintenant, avec ce que vous nous avez dit, l'importance du comité 21 et puis de l'Institut des études avancées qui peuvent aider les politiques à prendre les bonnes décisions alors, quand il est encore temps et pas quand il sera trop tard. Bien, merci beaucoup, Madame Laville, pour tous ces éclairages. Et puis, nous invitons nos éditeurs à venir vous entendre, ce sera 11h15 en ce qui vous concerne, si ils sont sensibles à ces questions de planification et d'aménagement du territoire avec le souci centré autour du souci de l'eau, de venir à la salle Rabelais à 11h15 ce mardi 19.
Oui,
merci à vous.
Oui, encourage d'autant plus que l'association La Métamorphose fait vraiment un très très gros travail et qu'ils invitent toujours alors j'ose pas le dire puisque moi j'en fais partie, mais les autres interlocuteurs, tous les interlocuteurs invités sont tous très passionnants.
Oui, absolument. J'en ai interviewé déjà quelques-uns. Ça s'annonce d'un très haut niveau, j'ai envie de dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.
Et puis bon voyage et bon séjour à Montpellier.
Merci, j'adore venir à Montpellier toujours.
Parfait.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.